RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous dans l'After. On est ensemble jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot. Rebonsoir Pierre Ducrot.
Rebonsoir Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo qui prendra le relais.
Oui. Bonsoir Daniel.
Dans les amis, c'est Poker Show, ça va Daniel ?
Très bien.
Tout roule ?
Oui.
On vous rappelle le résultat de la 16e journée de Ligue 1 de ce dimanche. Un partout entre Saint-Etienne et Nantes. Cet après-midi, Lyon s'est imposé 2-1 à Caen. Et un but partout donc entre Montpellier et Marseille. Alors c'est un résultat qui est lourd de conséquences, mais qui resserre un peu plus encore notre Ligue 1, puisqu'on a le Paris Saint-Germain avec 41 points en tête de ce classement. Et derrière, à 9 points, on a Lyon, Monaco et Marseille avec 32 points. Donc derrière avec 27 points, on a Nantes. Rennes est derrière à la 6e place. Montpellier est à la 8e place à 1 point du stade Malherbe de Caen. Et dans la zone rouge, on retrouve toujours Metz, bon dernier avec 4 points, soit 10 points de retard sur Angers, premier relégable. Et Toulouse est barragiste. Toulouse qui compte 2 points de retard sur Strasbourg et sur Lille. On va bien entendu entrer dans le détail de ce Montpellier-Marseille, mais avant, on va commencer par l'essentiel. L'essentiel, c'est 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Pierre Ducrot, tes 3 points du soir.
L'OM collectivement, Payet, point d'interrogation, et Montpellier cohérent. Voilà.
Merci.
Ce sont mes 3 points. Non, mais j'ai écouté en voiture l'after avec Gilbert et Jérôme Roten qui s'étendait trop sur ces 3 points. Je crois qu'il y avait Daniel aussi.
Non, mais on faisait des
Moi j'ai retenu Gilbert, il a dit il faut donner les 3 points et basta.
Non, mais t'as le droit de développer un peu quand même.
Ouais, mais.
Ouais, bon, j'ai pas envie. Ouais, ouais.
Gilbert, il a le droit d'avoir un petit côté suisse, on n'est pas obligé de tous l'être.
Moi j'ai un côté un peu.
Non, mais l'OM voilà. Collectivement, voilà, parce que c'était.
Ce soir, on est en latin domination.
Voilà, ouais, c'est un peu ça. On peut parler un petit peu, on peut échanger.
Tu peux avoir un peu plus de fantaisie.
Ah, c'est bon ça, bon, super.
Alors l'OM c'est pas trop non plus. Hein. Non,
c'est Strasbourg, ouais, c'est carré, pas, quoi, on n'est pas loin.
C'est rigoureux quoi. C'est...
Ouais. Et puis si tu redescends un peu,
arrête.
L'OM collectivement parce que ça a été pour moi ce match contre Montpellier, c'est-à-dire
pas fini tes 3 points
contre une équipe qui est en place mais qui cherche pas à faire plus de jeu que ça, qui sert juste à contrer. L'OM est pas capable de jouer au foot. Voilà, donc on a pour moi ce que va être l'OM cette saison, c'est-à-dire une équipe avec un état d'esprit, quoique ce soir c'était même pas ça, mais avec un état d'esprit en règle générale contre les équipes qui jouent de battants, qui va pouvoir contrer ces équipes-là, mais qui un OM qui quand il va falloir faire le jeu en sera incapable. En tout cas ce soir c'est ce qui s'est passé. Payet pour interrogation parce que j'ai été assez estomaqué moi de voir. Alors c'est pas parce que je l'aime pas, parce que voilà, ça va encore, c'est d'ailleurs je suis pas le seul je crois ce soir à avoir remarqué que pendant le match, alors avec le ballon qui rate des choses, etc. À la limite, pourquoi pas. Voilà, ça peut arriver à tout le monde.
Ça peut être dans son jeu.
Ouais, et bien que c'est quand même beaucoup là pour lui. Moi, ce qui m'a dérangé énormément, c'est son implication ce soir. Voilà, t'as l'impression que le garçon n'avait pas envie. Alors, j'espère que c'est qu'une impression et que c'est pas, et que le problème n'est pas là. Mais je l'ai vu marcher devant un Mavi qui en deuxième mi-temps défendait face à deux Montpellierains 3 fois de suite en 45 secondes.
T'es
quoi.
Proche de l'acharnement là.
Ouais, je sais pas, mais si j'y suis proche ou dedans déjà, mais moi ça, enfin voilà, il avait le brassard de capitaine, quoi. Ça veut dire quelque chose. Et dans cet OM qui a un bon état d'esprit justement cette saison, ça m'a choqué. C'est tout, c'est comme ça. Et le troisième point, je finis maintenant que tu m'as donné la parole, je continue. Montpellier cohérent parce que Montpellier a fait ce que Montpellier sait faire depuis un moment. Et il pose des problèmes à beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'ils sont très bien organisés collectivement. Il n'y en a pas un qui sort du schéma imposé par Dazakarian défensivement. Et puis ça contre très vite. Ça combine plutôt pas mal. Donc voilà, je vais pas dire que j'ai aimé le match de Montpellier, mais avec leurs armes, ils posent des problèmes.
Daniel, tes 3 points ce soir ?
Ils vont concerner les 3 matchs du jour. Le premier de ce soir, j'ai pas trop voulu m'y attarder parce qu'il a plus, il fera plus parler de lui par les faits de jeu que par le jeu. Donc je vais juste dire que pour l'OM, finalement, ce point est pas mal du tout. D'ailleurs, Mandanda l'a dit à la fin du match. Donc mon premier point, c'est un nul va bien à l'OM ce soir. Le deuxième, c'est le match qui m'a le plus plu aujourd'hui. C'est le match de Lyon. Caen-Lyon, c'était très agréable à regarder. Plein de rythme. Des occasions, j'ai bien aimé ce match. Et au final, Lyon gagne 2-1. À un moment, on se peut faire 3-1, on se peut faire 2-2. Il se passe pas mal de choses dans cette rencontre. Donc, une victoire pas si simple pour l'OL. On y reviendra. Et mon troisième point, c'est, je dis Nantes impressionnant.
Parce Nantes que, est à 5 points de Marseille. Hein, ils sont cinquième. Hein.
Chaque match, tu les vois... Ils craquent pas, ils lâchent pas les Nantais, c'est l'équipe intercalée là. La semaine dernière, je disais l'image un peu du Tour de France, quoi. T'as les échappés, les retardataires et Nantes, c'est intercalé entre les deux là, à la cinquième place. Ils lâchent rien, ils ont pas grand chose hein, dans l'équipe hein, si tu regardes. Hein. C'est Rongier, Léo Dubois, un bon gardien et le reste c'est plein de bonne volonté. Enfin, il y a pas de génie dans l'équipe. Et Ranieri fait un travail absolument formidable. Moi, ces Nantais m'impressionnent à point que je me dis si on fait le ratio moyen jeu point prix
et c'est peut-être la meilleure équipe.
Et vu de ce que tu vois dans l'ensemble, je suis pas la meilleure équipe parce qu'au final c'est pas la meilleure équipe.
Non mais au ratio.
Mais en tout cas, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce que fait Nantes cette année, j'aime beaucoup. Voilà.
Je vous donne mes trois points également de ce soir. Alors le premier c'est sur Mariano, alors qu'il a marqué un joli but en plus avec Lyon, un de plus. Il monte au classement sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Mariano, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Moi j'avoue qu'il m'impressionne parce que quand il a signé à Lyon, j'étais assez sceptique moi par rapport à ce joueur qui avait surtout joué avec la Castilla, la réserve du Real Madrid. Mais voilà, il a compensé les absences de Fekir quand Fekir n'était pas là. Bref, il continue de confirmer de semaine en semaine.
Il progresse surtout.
Oui, c'est vrai aussi. Alors Payet. Moi, je suis assez d'accord avec toi aussi, Pierre. C'est vrai que j'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi Rudy Garcia a pris autant de temps pour le faire.
L'acharnement.
Arrête, Daniel.
Non, mais l'acharnement.
Et alors, globalement, sur ce match, sur ce Montpellier-Marseille, moi, j'ai trouvé que c'était quand même, surtout pour un match de dimanche soir, c'était quand même une triste affiche. Hein. Ouais. Franchement, le niveau du spectacle, au niveau de la qualité.
Il n'y a pas de rythme.
Ah non, c'était chiant, franchement.
Il n'y a que Jeannot qui a amélioré.
Ouais, c'est vrai, heureusement qu'il y a RMC. Hein, parce que sinon, les mecs, ils se seraient endormis. On va rentrer justement dans le détail de ce Montpellier-Marseille. On vous rappelle les buteurs, Sio et Thauvin. Sio à la 26e, Thauvin sur pénalty à la 44e. Alors un pénalty qui a beaucoup fait parler. Alors pour même vous dire la vérité, pour ceux qui étaient avec nous sur RMC, ils le savent. Pour les autres, on vous le dit. Notre arbitre radio, Joël Quignot, a été obligé de nous rappeler pour expliquer ce qui s'était passé. Visiblement, Monsieur Schneider n'a pas sanctionné une main dans la surface de réparation, mais bel et bien une faute dans la surface de réparation.
C'est Sanson qui frappe.
Voilà. Alors c'était pas évident ni l'un ni l'autre, hein, ni la main ni la faute. Hein.
Non. C'est deux décisions arbitrales qui finalement après coup, peuvent être prises et sont assez fort justement prises. Alors le pénalty est un petit peu moins que le hors-jeu, mais le hors-jeu il y est et il est il est justifié. Mais c'est vrai que quand t'es Montpellierain ce soir sur le terrain ou au bord sur le banc de touche, je pense au coach de Montpellier qui a pas tous les éléments tout de suite comme nous à la télé, ça peut être frustrant.
Tiens, il y a une réaction sur le hashtag RMC Live, Stéphane qui nous dit « Bon courage pour le débrief les gars, parler d'une telle négation de foot va falloir être créatif ». C'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'était pas un...
Ouais.
Guilin, justement, nous a appelé au 32-16. Salut Guilin.
J'avais pas entendu ce prénom depuis très longtemps.
Ça fait longtemps que j'ai pas appelé Guilin.
J'ai jamais entendu ce prénom, Guilin.
Eh ben écoutez, avec moi ce sera une première.
Voilà. T'as remarqué, si tu inverses les syllabes, ça fait Ligue 1.
C'est Ligue 1, ouais, pas mal.
Bon, supporter de Marseille, t'es comment ce soir? Est-ce que t'es content du point? Alors, Daniel disait tout à l'heure, un nul, ça va, ça suffit finalement pour l'Olympique de Marseille. Ou t'es quand même déçu par la prestation?
Ça leur va bien.
Voilà.
Je suis pas content de ce point parce que c'est un point de raccro, c'est un point dégueulasse, c'est pas un beau point et c'est un point qui coûtera cher à la fin de la saison. Donc là-dessus, on peut se réjouir, mais c'est vraiment un point très très laid. Une négation du jeu, une négation de tout, c'était vraiment pas sympa à regarder. Et moi, celui que je veux mettre en avant ce soir, qui caractérise ce jeu, mais pourri, c'est Dimitri Payet.
Il n'y a pas que vous.
Non, il n'y a pas que vous, et franchement, ça fait un moment que je suis. Ce soir, franchement, j'ai suivi sa prestation, mais vraiment attentivement. Ce mec-là, c'était notre fer de lance du recrutement. Il nous a coûté très cher, il a pris tout le pognon de Marseille pour le mercato, pour le transfert d'autres joueurs, il a un salaire astronomique.
Fait payer 1 euro à tous ceux qui m'ont insulté quand j'ai parlé de Payet en décembre dernier quand il est arrivé, putain, je serais riche.
Bah, t'aurais été milliardaire.
J'ai pris 1 euro par insulte, là, j'étais bien. Ouais. Là.
Bah, c'est surtout, c'est surtout là, ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'il fait en ce moment.
Non,
je parlais du recrutement et de l'aberration que ça représentait de mettre non pas à la limite, mais en plus moi si mais le problème c'est qu'on comprend pas toujours parce que tout le monde peut parler foot mais tout le monde ne comprend pas le foot. Donc c'était pas tant le fait de prendre Payet qui était un problème, s'il est par exemple il avait été gratos. Prends-le Payet, c'est pas de problème.
L'investissement,
c'était l'investissement et le salaire donné, ce que ça représentait économiquement sur la durée de contrat,
par rapport à
la...
oui, bien sûr.
Ça handicapait l'OM et ça handicapera l'OM dans ses prochains recrutements pour renforcer l'équipe. C'était pas lui en tant que personne que j'attaquais et que je continue de pas attaquer. Bon, enfin, maintenant, si, je pourrais parce que ses prestations sont pas bonnes.
C'est pas la personne, mais c'est le joueur.
Mais,
c'est le joueur.
Mais c'est ça qu'on veut pas toujours comprendre les choses.
Moi, ce que je veux souligner, est-ce que Dimitri Payet se rend compte qu'il est en train de s'exclure tout seul du groupe France pour la Coupe du Monde?
Je pense qu'il le sait. Il a déjà réservé ses vacances ailleurs.
Bah, il est con parce que peut-être qu'il l'avait pas, mais si c'est joueur de foot et avec l'histoire qu'il a aussi avec les Bleus. Il a fait un bon début d'Euro. Et bah, je sais pas, moi, si j'ai sa chance, je me bats.
Mais Guilain, si tu veux aller faire la Coupe du Monde, tu montres pas. Une fois de plus, j'insiste.
Il ne montre rien.
Que tu rates des choses sur un terrain de foot, on en a tous raté plus ou moins. Il y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ce soir, c'est de le voir parfois marcher à côté de ses potes qui sont en train de défendre, quoi. Et ça, Deschamps, il le voit aussi, hein, t'inquiète pas. Hein.
Oui. Et moi, ce que je voulais te
dire. Et puis, il veut pas y aller sur le côté, hein. Il veut pas.
C'est vrai que Sanson était censé occuper le cœur du jeu aujourd'hui et Payet. Alors il est resté dans le couloir. Mais alors c'est ce que Pierre d'ailleurs
ça lui a pas,
disait
il
pendant
veut pas,
le match.
Donc
il défend
pas.
Défendre,
mais voilà. Parfois. Mais il a toujours fait ça. Enfin bon, écoutez.
Mais là où il est idiot aujourd'hui.
On découvre rien
Payet,
du tout.
C'est que Sanson effectivement a commencé dans l'axe. Mais Sanson très très souvent a été près de Germain et a même fait des appels dans la profondeur en partant de l'axe et en allant sur les côtés. Payet, il avait tout à gagner aujourd'hui à créer du mouvement, à créer de l'animation avec Sanson et que ça se passe bien et que ça donne des bonnes idées à Rudy Garcia. Si on se met à la place de Rudy Garcia là, bah effectivement t'as pas envie de les raligner à deux, hein, Sanson et Payet. Hein.
Dernière chose, tu disais Daniel, Dimitri Payet est en excédent pondéral. Il est, je vais pas être vulgaire, mais faut qu'il fasse un régime le mec, faut qu'il fasse quelque chose, faut qu'il se bouge. Il y arrive pas sur le terrain. Donc on charrie Evra qui avait du mal à faire les remontées de terrain. Observez le match de Dimitri Payet aujourd'hui, il trottine, il marche, il ne court pas. Et chose très intéressante, observez son placement sur le coup franc de la 51e minute. Il ne regarde pas son gardien, il ne regarde pas l'arbitre qui lui dit de reculer. Et vous le retrouvez au milieu, il est inexistant. Il ne sert à rien, ni en phase défensive, ni en phase offensive. C'est vraiment un désastre pour Marseille, perdre autant d'argent et se priver d'autres pépites qu'on pouvait
avoir. Stop, Guilain, c'est de l'acharnement, Guilain.
Merci en tout cas, Guilain, de nous avoir appelé.
Super content d'être passé à l'antenne. Vous êtes mes fidèles compagnons du replay du matin dans le métro sur la place de ligne 13. Donc
Putain, tu sais qu'avec le nombre de gens qui disent on vous écoute en podcast dans le métro, on pourrait pas faire un truc avec la RATP dans des haut-parleurs ou
être diffusé pendant le
dans toutes les rames de métro.
Je sais pas si tout le monde
les gars pourraient échanger dans les wagons et tout.
Je serais bien d'aimer le foot moi, mais
ça serait mortel.
Ouais, bon.
Merci en tout cas Guilain.
Salut
Guilain, merci de nous avoir appelé en tout cas. Voilà, merci.
Tu le maîtrises toujours pas.
J'arrive pas ce truc, ça me vénère là. Tiens, juste quand même avant d'accueillir Jean-Luc également, autre supporter de l'OM qui nous a appelé au 32-16, je vous donne juste le calendrier de Marseille parce que c'est important ce qui arrive pour Marseille dans les semaines à venir.
Il joue Saint-Etienne non, prochaine.
Alors il y a le Red Bull Salzbourg d'abord en Ligue Europa, faut pas le perdre parce que Marseille est pas encore qualifié. Saint-Etienne qui vient ensuite en championnat le 10.
Saint-Etienne ils sont vraiment à la cave.
Et en Coupe de la Ligue parce que la Coupe c'est aussi un objectif pour l'OM, ils vont à Rennes quand même les Marseillais.
Ouais, mais tu sais quoi? Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je me fais presque moins de soucis
face aux équipes qui jouent
pour l'OM contre Saint-Etienne ou Rennes, parce que c'est des équipes qui vont vouloir quand même jouer un peu plus que Montpellier aujourd'hui.
Je t'ai pas dit
qu'ils allaient réussir à jouer, je t'ai dit qu'ils allaient vouloir jouer un peu plus.
Même pas vouloir.
Et après,
ça reste pas très organisé, tu vois, défensivement derrière comme Montpellier. C'est des équipes qui sortent, quoi.
T'as entendu?
Et là, l'OM a plus de facilité contre ces équipes-là.
Après Rennes en Ligue 1, ils vont à Lyon.
Ouais, mais je te dis pas qu'ils vont gagner, je suis presque moins inquiet pour l'OM contre Lyon que contre Montpellier.
On accuse Jean-Luc.
Jean-Luc, tu es accusé.
Jean-Luc.
Salut After, salut.
Ça va Jean-Luc?
Alors moi le podcast c'est pas dans le métro parce que j'habite à Marseille, c'est sur l'autoroute le matin.
Voilà. Ouais, mais il y a le métro à Marseille aussi.
Ouais, mais je prends pas le métro, je prends la voiture moi.
Ouais, bah écoute, tu t'es en bourgeoisie Jean-Luc, qu'est-ce que tu veux, je te dis, tu veux pas prendre le métro, c'est ton problème. Bon, t'es comment après ce soir là? T'es content ou pas toi pour l'OM?
Ah bah écoutez, moi on prend un point. Quand on fait un mauvais match comme ça, on prend un point, donc tout va bien. On le prend et on dit rien, quoi. Mais quand même, je voulais dire quand même que pour la Ligue 1, faut espérer vraiment que Michel Derzakarian il arrête le football, quoi, parce que c'est pas possible. C'est plus possible, les gars, comme ça, c'est pas possible. Voilà. Et voilà, moi, je suis content pour notre point. C'est tout. Rien à dire de plus. On constate quand même qu'on a vraiment des gros problèmes d'animation offensive, on n'y arrive pas. Quoi.
Mais pourquoi tu dis ça sur Derzakarian? Parce que son jeu est très défensif.
Derzakarian, depuis qu'il entraîne les équipes, quelle que soit l'équipe qu'il a entraînée, c'est toujours un jeu qui qui est non seulement défensif, parce que défensif, ça peut être aussi.
Jean-Luc, c'est vrai, c'est vrai, mais sur la première période, Montpellier se contente pas simplement de rester derrière. Attends, je dis pas que je suis pas d'accord avec toi. Hein, je le constate, hein, ce qu'ils font. Mais sur la première période, je trouve ça un peu sévère, et sur la seconde, le match est terne, mais c'est dans les deux sens qu'il est terne. Marseille essaye, mais fait. De faire le jeu mais le fait pas bien, et Montpellier défend en essayant de contrer mais ne contre rien du tout parce qu'il ne joue pas.
Je suis pas
c'est pas là que ça me semble le plus dingue, hein, mais après le truc c'est toujours pareil, ça dépend des contextes. Si une équipe fait ça contre le PSG, c'est le PSG qui est nul parce qu'ils arrivent pas à contourner le bloc et à percer le bloc. Si on fait ça contre d'autres, c'est pourri. En fait, il faudrait décider, parce que quand moi je critique les équipes qui font ça, je me fais accuser, enfin on m'accuse d'avoir une vision unique du football. Non, même pas forcément romantique, d'avoir une vision unique, il faudrait faire le jeu, et pourquoi on n'a pas le droit de défendre et de contrer.
Ce qui est vrai, pourquoi il aurait pas le droit de défendre et de contrer.
Non, mais on a le droit d'avoir ses convictions.
Derzac a les siennes, visiblement. Et là, ça fonctionne pas trop mal cette saison.
Jean-Luc, je suis pas un fan des statistiques du tout, mais quand à la sortie du match aujourd'hui, t'as l'OM qui a les deux tiers du temps le ballon. C'est-à-dire l'OM pendant plus de 67 ou 68% du temps le ballon. L'OM frappe deux fois moins au but et cadre deux fois moins de ballons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'OM avec le ballon dans les pieds a fait deux fois moins offensivement que Montpellier sans avoir le ballon, ou en tout cas en l'ayant beaucoup moins. Et ben à un moment donné, à un moment donné, quand t'es joueur avec un certain groupe de joueurs avec certaines qualités, moi je suis pas contre qu'un coach il joue avec ces qualités là et il prenne des points et il pose des problèmes à d'autres. Aujourd'hui, si Montpellier jouait un peu plus offensivement, de façon un peu plus libérée, je suis pas sûr que Montpellier serait à ce, tu vois, 8e du championnat. Je suis pas certain.
Alors d'accord avec vous, j'ai pas le problème. Moi je suis un supporter de l'OM, d'accord. Pour autant, moi aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que supporter de l'OM, une quatrième place, un deuxième à égalité, pour nous c'est inespéré. Donc aujourd'hui, on est super content. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on va tenir comme ça jusqu'au mercato. Qu'au mercato, ben, on va pouvoir quand même avoir quelques joueurs de foot, parce que franchement, être second du classement avec des Rolando, des Zambouanguissa, des Ocampos et tout, pour nous, c'est un vrai miracle. Hein. Faut pas se leurrer non plus quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est génial d'être deuxième avec deuxième égalité avec ce genre de joueurs-là. Et puis vraiment, j'espère vraiment qu'on aura des joueurs, parce que au milieu de terrain. Et puis, il faut surtout espérer que Luis Gustavo ne se blesse pas, parce que là, vraiment, je vois pas comment on peut jouer. Quoi. Là, si le ballon il passe par lui, même au milieu de terrain, c'est lui qui coupe les lignes. Ce n'est pas ce qu'il fait, son magnifique. Enfin, je veux dire, on sait pas la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça. C'est incroyable, parce que sans Luis Gustavo, on serait même pas à la place de Montpellier, parce qu'on ne produit rien. Quoi. Il est sur tous les ballons en défense, il est sur tous les ballons même en attaque quand on produit. Sinon, il se passe rien. Quoi. Et bon, j'espère vraiment qu'on va pouvoir améliorer les choses. Puis, moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'on va retransmettre tous nos matchs en Turquie pour que les gens se rappellent que Dimitri Payet joue, et puis il y a un bon club turc qui va mettre 30 millions sur Payet et qui s'en aille. Voilà.
Bon, ok, c'est dit. Merci Jean-Luc en tout cas de nous avoir appelé.
Ciao Jean-Luc.
À bientôt Jean-Luc. Salut. Bonne soirée. Tiens, une réaction également de Platoche, hein, sur le hashtag RMC.
Oh, Platoche, on a déjà eu.
Ouais, on était. Bah, c'est un fidèle Platoche. Vous parlez beaucoup des joueurs de l'OM, mais quid de Garcia dans tout ça? Parce que c'est vrai que c'est lui quand même, hein, qui fait les choix. Pendant le match, c'est vrai que vous étiez ému avec Lionel Charbonnier du fait que finalement Payet sorte si tard dans le match, qu'il enlève si tôt dans le match par contre Thauvin.
Alors, moi je veux bien, sauf que.
C'est une question de Platoche. Hein.
Non, mais on en revient souvent à cette discussion-là. C'est ce qu'il y a de plus dur pour un entraîneur que de prendre ce genre de décision. Aller dire, quand t'es dans la position de Garcia, qu'en plus, très franchement, les résultats sont bons à Marseille. Ils sont même bien meilleurs qu'on pouvait l'imaginer en début de saison. L'OM est en course pour la deuxième place. Alors, oui, ça pourrait être mieux. Le supporter de l'OM qui ne va pas s'arrêter qu'au résultat, qui va essayer d'aller un peu plus loin, qui va être un peu plus fin, il va non seulement penser au jeu de son équipe, mais il va peut-être même envisager la saison prochaine. Et là, il va s'arrêter sur ce point-là. Il va se dire, bon, ok, on peut finir sur le podium, il y a un bon coup à jouer, on pourrait encore s'améliorer. Et là, il va peut-être se dire, si Payet ne joue pas, c'est peut-être mieux tout ça. L'autre, il va voir que les résultats. Et Rudy Garcia, il est un peu au milieu de tout ça. Et lui, qu'est-ce que tu veux qu'il se dise ? J'ai ma recrue phare, ma tête de gondole, mon joueur le plus payé, mais je peux pas le foutre sur le banc. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la même chose pour Emery avec avec Neymar ou avec ce genre de joueur-là. C'est la même chose. On a vu d'ailleurs que Genesio l'avait fait avec Memphis, que ça avait d'ailleurs un petit peu surpris, que mine de rien ça avait fait débat. J'en avais parlé avec lui pour l'entretien en transversal. C'était une vraie décision à prendre. Il a pris la décision. Memphis est revenu. Il a mieux joué, mais depuis, mine de rien, c'est un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Est-ce qu'il va devoir encore à nouveau essayer de le renvoyer un petit peu sur le banc? C'est pas simple ce genre de décision pour un entraîneur. Quand t'as le plus gros salaire, ton plus gros transfert, c'est très compliqué. Très compliqué. Pierre, je pense que ça, toi, tu le sais, t'as vu ça dans les clubs, c'est compliqué.
C'est compliqué. Bah,
et dans moi, n'importe certainement, quel club, hein, le petit ou le gros.
C'est compliqué. Et moi, j'allais dire deux choses. J'allais dire que déjà, dans un premier temps, c'est pas lui qui fait tous les choix sur le recrutement, je pense, et notamment à Payet, forcément. Donc il y a des choix qu'il assume, enfin qu'il doit assumer aujourd'hui, et alors que c'est pas lui qui les a fait, il doit faire avec plutôt. Et puis deuxièmement, c'est pas lui qui est sur le terrain ce soir. Et moi ce soir, alors oui, ok, on peut discuter le fait de pas, pourquoi pas en deuxième mi-temps.
Ah ouais, c'est le dernier qui l'enlève.
La dernière demi-heure, pourquoi pas associer Germain et Mitroglou.
D'ailleurs, Mitroglou sur le banc. Mine de rien, ça passe inaperçu. Décision.
Ouais,
décision
fait,
importante, Mitroglou sur le banc.
On peut aussi se poser la question, pourquoi il sort Thauvin au lieu de sortir Payet, pour moi. Voilà.
Pour rotation
aujourd'hui, quand t'es à Montpellier, un partout, et que Thauvin, ça a l'air d'être à peu près le seul qui peut te mettre un peu de vitesse.
C'est le meilleur buteur de l'OM cette saison, Thauvin.
Ouais, voilà, en plus. Mais t'avais l'impression quand même que c'est lui qui pouvait te débloquer peut-être à un moment donné la situation. Et par contre, après, j'insiste, c'est pas lui qui est sur le terrain. Donc, à un moment donné, c'est pas lui qui est à la place d'Anguissa au milieu de terrain et qui techniquement fait beaucoup d'erreurs. C'est pas lui qui est à la place d'Abdennour et qui se fait bouffer 3-4 fois. C'est pas lui qui est à la place de Payet et qui défend pas sur le côté, ou en tout cas qui n'anime pas son côté et qui ensuite ne le défend pas, etc.
Tu sais quoi, on va l'écouter, Rudy Garcia. Il est en ce moment même en direct en conférence de presse. Montpellier-Marseille en fait match nul, un but partout. Sio a marqué pour le MHSC, égalisation de Thauvin sur penalty.
Pourquoi tu joues à l'Amérique?
MHSC.
Je crois qu'on a fait une première période trop moyenne à mon goût. Le deuxième était beaucoup mieux, était plus patient dans la construction du jeu, mais qu'on s'est procuré pas suffisamment d'occasions pour espérer gagner ce match. Voilà, donc voilà ce que je pense.
Rudy Garcia en direct, en conférence de presse.
Oui, bien sûr. Steve ne peut pas intervenir comme il le souhaite, parce qu'il y a Montpellierin hors-jeu qui est tout proche de mettre le ballon de la tête sur une tête plongeante, de mettre le ballon au fond ou en tous les cas vers le but de la tête. Ça veut dire que Steve est obligé de plonger en retard, parce que si ce joueur-là la touche, ben, j'aurais engueulé mon gardien d'être parti trop tôt sur la gauche. Et du coup, il est parti en retard et donc le but est logiquement annulé, voilà, tout simplement. Ben, je sais pas, c'est ce que je me demande, si l'arbitre assistant avait d'abord levé ou pas. En tous les cas, il a appelé tout de suite Monsieur Schneider. Après, Vous savez bien, parce que pour tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, puisqu'on va parler d'arbitrage, il y a longtemps que je milite pour qu'on ait enfin de l'aide pour nos arbitres. Donc ce soir, même si c'est en ma faveur, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'arbitrage vidéo, tout simplement.
Ça va faire plaisir à Daniel, ça.
Il répondra pas, il rentrera pas dans ce
débat. Non, mais je note simplement qu'il y a eu Garcia a beaucoup poussé sur cette coupe de cheveux.
Sur Morgane, il est ceinturé, donc voilà. Il y a un rouge oublié pour Hilton aussi, parce que Valère, il s'est pas ouvert tout seul. Bon, voilà on ne va pas parler.
Donc là, Rudy Garcia est en train de prouver que ce qu'il a dit avant est inutile, que la vidéo n'aidera et n'avancera jamais à rien, puisqu'il y aura de la saison prochaine toujours cette discussion.
Attends, on n'aura plus toutes ces polémiques, parce que l'arbitre, il ira voir l'écran et il pourra juger comme tous ceux qui regardent à la télé, avec dit ralenti.
Et non, ce qu'il dit est faux, parce qu'il n'ira pas regarder pour chaque action et celle qu'il vient d'évoquer. Parce qu'il en a évoqué 10.
Non, puis heureusement, parce que sinon, déjà que ce match n'était pas très rythmé, alors si en plus on s'arrête et qu'on regarde 10 fois les ralentis.
Et oui, parce qu'on n'ira jamais regarder pour les 10. C'est-à-dire pour le fameux carton dont il a parlé, pour ceci, pour cela et pour cela.
Donc on n'en finira jamais. Il y aura toujours un déséquilibre. Voilà, on a été voir cette action-là et pas celle-là.
Voilà. Et donc tous ceux qui adorent en parler.
Vous savez qu'au Portugal, ils ont mis en place le vidéo arbitrage. Il y avait le classico le week-end dernier sur SFR Sport.
Bon bordel.
0-0. En fait, si tu veux, c'est l'arbitre qui décide quand il fait appel à la vidéo.
Et donc, il y a eu des actions.
Il y a eu notamment un but qui a été refusé au FC Porto pour hors-jeu, alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Il n'a pas fait appel à la vidéo.
Je l'ai vu,
Il y a eu un penalty où il a fait appel par contre à la vidéo, mais finalement il a quand même.
Ah, mais dis donc, le but pour hors-jeu, pourquoi il n'est pas allé voir?
Bah justement, c'est ce que...
Et ça pour le coup, c'est méga demande. Scandale, il n'y a pas hors-jeu. C'est ouf. Voilà. Mais c'est bien la preuve que ça marche pas, que c'est stupide, que tu peux pas l'utiliser. Bah
après,
c'est une erreur.
Il y a certaines conditions dans lesquelles tu peux l'utiliser.
Attends,
excuse-moi. La fois où tu vas arranger l'affaire, la fois où ça va se passer, à côté... Tu auras plein de cas où tu ne vas pas arranger les affaires. Par exemple, le cas du là en l'occurrence, c'est hallucinant parce que là il n'y a pas hors-jeu sur le but. Mais c'est donc au final la même chose. C'est le nombre de fois où tu as le déséquilibre à cause d'une erreur d'arbitrage,
sauf que
la proportion, la proba d'erreur, c'est la même.
Sauf que je te donne moi la réponse du président de la Ligue portugaise qui est un ancien arbitre, Pedro Proença, qui a été d'ailleurs le meilleur arbitre du monde il y a pas si longtemps que ça. Proença, il dit on a calculé avec la Ligue depuis le début de la saison, il y a 20 buts, il y a 20 actions de jeu. 20 buts qui auraient dû être validés ou qui l'ont été et qui n'auraient pas dû. En gros, il y a 20 décisions, 20 erreurs qui ont été corrigées grâce au vidéo arbitrage. Mmh. Donc il dit voilà, c'est pas parfait. On sera jamais à la perfection, mais le nombre d'erreurs se réduit.
Sont limitées.
Et en fonction de quelles images qui ont été regardées, ça ne sont que des buts ou c'est d'autres actions
Là, il parle des buts seulement. Il parle des buts.
Mais le problème, c'est que ça n'est pas que ça.
Non, mais justement, il aurait pu gonfler le chiffre encore plus.
Ça peut être un carton, ça peut être énormément de choses.
On se fait une pause, messieurs. J'adore
pas que les buts.
Quand on bifurque sur ce sujet. Voilà. Ça te fait rire, toi? On sera avec Smaïl, supporter de Montpellier, dans quelques instants. On vous rappelle que Marseille et Montpellier ont fait match nul à la Mosson ce soir, un but partout. Siou a marqué pour le Montpellier. Je peux pas dire le MHSC, ça fait rigoler Daniel.
Tu peux, j'aime bien ce côté.
Ouais, Montpellier Eurosport Club. MHSC, quoi.
Ou un peu et pour l'OM, c'était aussi, le HSV. Le BVB.
Le BVB. Ouais. Allez, à tout de suite pour la suite de l'after.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Pierre Dutrot et Daniel Riolo et vous au 32-16. Montpellier et Marseille ont fait match nul, un but partout ce soir. Marseille qui était à égalité de points au classement, la deuxième place, enfin à la quatrième du coup, derrière Lyon et Monaco.
Allez, il est temps de changer de match.
Alors en fait, attends, petite réaction quand même avec Smaïl, supporter de Montpellier.
Daniel, tu choisis pas le problème, hein, c'est lui. Hein, c'est...
Non, c'est pas moi.
Je sais, Daniel.
Attends,
s'il y arrive.
Voilà. Ça va, Smaïl?
Salut l'after. Salut Daniel. Première chose, bonsoir l'after. Je suis un grand admirateur de Daniel Riolo.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup.
Franchement, Daniel.
Donc on regarde ou pas?
Ouais, on regarde,
moi je t'écoute plus, Smaïl.
Non, mais surtout ses analyses, je kiffe. Franchement, il a. C'est un mec qui a tout à fait raison et il mérite d'être écouté. Moi je kiffe.
Smaïl Riolo.
On est de plus en plus à écouter l'after, sachez-le quand même.
Voilà.
C'est ça qui est beau.
Tiens, Smaïl, tu sais quoi? On va se faire l'évaluation de ce Montpellier-Marseille avec toi.
Vas-y.
Alors, qui pour toi est l'homme de ce match?
L'homme de ce match, franchement, est-ce qu'on peut trouver un homme du match? L'arbitre? L'arbitre, non?
Oh non, ça on n'a pas le droit chez nous.
Franchement.
C'est pas évident, c'est vrai, c'est une question dure.
Hilton, moi j'aime bien. Hilton. Franchement, j'ai beaucoup aimé Hilton. Après, Pauvin, il fait un bon match aussi. Voilà, à côté Montpellier, Assio, il met un but. Aguilar, il fait un bon début.
Ah voilà. Moi j'aimerais bien que tu t'arrêtes sur lui.
Sur qui?
Voilà, Aguilar, j'ai beaucoup aimé.
Ah, lui il me plaît de plus en plus, lui.
Ouais, j'ai beaucoup aimé.
J'aime bien, mais de là, le mettre homme du match.
Après, t'as pas un mec qui ressort véritablement.
Tu parlais de les gars que j'avais envie de mettre en avant, quoi. Homme du match, j'ai pas vraiment d'homme du match.
Ouais, c'est compliqué.
Mais lui.
Franchement, tu me poses une colle, hein. C'est compliqué de trouver.
Homme du match, tu sais que parfois c'est compliqué de donner un homme du match.
Surtout sur ce match-là, quoi. Franchement, il n'y en a pas un qui sort du lot, quoi. Il n'y a pas un mec qui a fait. Après, voilà, ça a été vraiment un match avec de gros déchets techniques, que ce soit même au milieu de terrain, quoi. Entre milieu, ils avaient du mal à se passer le ballon. C'était très très compliqué. Calme plat, quoi. C'était un match samedi 20h, quoi. Donc pas du dimanche 21h. Après quoi en tirer, moi je trouve que Montpellier ils font leur match, Montpellier, avec les moyens qu'ils ont. Voilà quoi, ils continuent sur une bonne lancée, pas de défaite. Voilà, je trouve qu'on a été on a été en notre honneur. Voilà, après ça a été un peu compliqué sur le but de Camara, parce que voilà quoi, on aurait pu mener et gagner ce match, mais après bon voilà, après le penalty, est-ce qu'il penalty ou pas, je sais pas, mais voilà.
Ouais,
mais
c'est une faute, c'est une faute qui siffle. Bon,
c'est une faute qui siffle après.
Ouais, il y a un petit accrochage, mais c'est léger. Ouais.
En fait, il a peut-être fait de deux demi-fautes,
de deux petites fautes, une grande faute. Voilà.
Moi, je pensais que c'était la main d'Hilton. Finalement,
je crois qu'il y a 0,5 sur le fait que l'attaquant, c'est Sanson qui est ceinturé, et 0,25 sur la main.
Ouais.
Et à 0,75, il a fait un péno.
Mais j'ai senti l'arbitre, M. Schneider, un peu, je sais pas, je l'ai senti un peu énervé, quoi, en début de match, il mettait des cartons très vite.
Ouais, par contre, c'est vrai qu'il a dégainé très vite.
Après, M. Schneider n'est pas un de nos meilleurs. Ça, il faut bien le dire.
Tiens, c'est quoi, Smaïl? On va écouter.
C'est la chance au produit, mais bon, c'est
on va écouter la réaction en direct de ton coach, Michel Darzacarian, qui en ce moment est en conférence de presse.
Qu'on n'a pas gagné, parce qu'il y a eu des faits de jeu. Hein, c'est, dans le contenu de notre match, il est très bon. On a été. Ils ont une frappe pénalty en première mi-temps et ils ont une frappe en deuxième mi-temps. Voilà. Le reste du temps, ils ont eu le ballon, plus que nous, mais ils ont fait tourner derrière. Ils n'ont pas posé de problème. Après, nous, dans notre jeu de transition, il a été bon. On a su créer des occasions. Je pense qu'on aurait pu avoir d'autres situations si on avait été encore un peu plus juste. Et puis, on fait un dernier quart d'heure de grande qualité. Malheureusement, on n'est pas récompensé.
On dit merci qui ? Merci Michel. Merci pour cette analyse, Michel Darzacarian. L'analyse de Michel Darzacarian, entraîneur de Montpellier. Le mot de la fin, Smaïl, pour toi sur ce match ?
Le mot de la fin, j'espère que Montpellier va continuer comme ça. Hein, j'espère qu'on va redoubler encore d'efforts, qu'on va essayer de se sauver cette année et essayer de repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. En tout cas, bravo à Darzacarian pour on va dire, on a fait un début de saison un petit peu compliqué. Là, ça revient bien. Voilà, il faut serrer un petit peu les dents jusqu'à la trêve. Mais voilà, quoi. Après, match nul. Voilà. Il y a pas trop. Je laisse Daniel Riolo. Il est plus expérimenté.
Non, Smaïl, tu veux que je te dise, en fait, sur ce match, ouais. Je vois bien que t'es un peu embêté, comme on l'est aussi. Moi, je milite pour qu'on passe au match de Lyon.
Et tu sais quoi, Smaïl, c'est ce qu'on va faire. On va te souhaiter une bonne soirée.
Juste une dernière chose, je voulais passer le bonjour à mon beau-frère Hamed, parce que voilà, il écoute l'after. Mmh. Et voilà, et lui aussi, il kiffe Daniel Riolo. Donc voilà,
bon, on l'embrasse.
Bonne soirée, les gars.
Et tu sais quoi, Smaïl? Attends, Smaïl.
Oui, dis-moi. Ah,
raccroche-moi, on va te faire un cadeau, une maquette 3D, un puzzle 3D d'un stade de Ligue 1. Mais il n'y a pas la mousson.
S'il n'y a pas la mousson, c'est con pour lui, le pauvre.
Non, c'est pas grave, je vous kiffe, l'after. Franchement, je vous kiffe. Et continuez comme ça, vous êtes un régal. Sincèrement, je régale à vous écouter.
Il y a Jérôme Thomas, notre producteur, qui demande si tu veux les costières.
Non, ça ira. Je suis gentil, mais faut pas déconner.
Attends, il y aura peut-être un derby la saison prochaine, ils sont bien là, Nîmes.
Ah oui, Nîmes, ils sont droits.
Je vous dis la vérité sur Nîmes, sincèrement, je vous dis quelque chose sur Nîmes.
Vas-y.
C'est le seul club dans le Languedoc-Roussillon qui a des très très bons supporters.
Ah.
Parce que même dans la difficulté, là où ils avaient perdu, vous étiez partis avec 6 points en moins ou 10 points en moins, je me rappelle, oui. Il y avait des soucis avec transportifs, tout ça. Et ben, les mecs, ils étaient derrière eux. Et je trouve que, à Montpellier, on devrait un petit peu prendre exemple sur Nîmes parce que franchement, ils sont bons et voilà quoi. Juste un petit truc, voilà, sur les crocos. Voilà, franchement, ils ont des supporters.
Mais les Montpelliérains, ils ont trop de trucs, un peu de rugby, un peu de hand, un peu de foot. Il y a trop de sport dans cette ville.
C'est compliqué. Ouais. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur Montpellier, les gars. Quand vous voulez un after,
j'y vais dans pas longtemps. Michel Darzacarian, Darzac.
Tu l'emmènes à mon EPAP aux couleurs du Montpellier.
C'est vrai que t'es bien Montpellier ce soir, parce que ça, c'est les vraies couleurs, ça.
Oui.
Ce bleu comme ça,
le bleu, l'orange.
Il est sur rien au voisin.
Allez, bonne soirée, Smaïl.
Bonne soirée, les gars. Ouais,
ciao, salut mon gars, ciao. On va basculer sur le match de Lyon qui s'est imposé 2-1 à Caen cet après-midi. Les buteurs lyonnais, Cornet et Mariano. Santini a marqué à la 90e. Lyon qui restait sur une défaite face à Lille après 12 matchs sans défaite justement. Et Caen qui était plutôt sur une bonne dynamique également et qui finalement a rechuté face à l'OL. On l'a vu, un beau but d'ailleurs. Quel but d'ailleurs de Mariano. Magnifique.
Il y a une perte de barre contre Audelin. Il doit se débarrasser du ballon avant sur le but.
C'est lui qui tape le poteau, je crois.
Il fait ce qu'il aurait fait 50 mètres plus haut, sauf qu'il le fait à 20 mètres de son but et qu'il perd le ballon et derrière la sanction est terrible.
Et pour ceux qui sont branchés sur BFM Sport, vous les revoyez les buts, notamment la volée de Mariano,
c'est beau,
fantastique.
Et
il
est pas mal aussi,
l'enchaînement de Santini.
Ouais. Écoutez, bon, moi franchement, j'ai vu un.
Ouais,
moi,
ce match m'a beaucoup plu.
On aurait dû mettre à 21h celui-là. Ah oui. Ah ouais. Non, non. Ce match était bon. Alors, est-ce que c'est parce que Lyon a beaucoup ouvert finalement? Quand j'ai vu la compo, enfin, le matin, il y avait la compo annoncée, et quand je l'ai vu, j'ai dit, quand même, c'est vraiment comme ça, quoi, avec Touzard, Aouar, Fekir et trois autres mecs. Je crois que c'était bien audacieux,
ambitieux,
quoi,
ouais.
Ambitieux. Après, au contraire, moi j'adore ça, donc je ne trouve aucun mal à cette ambition. Ils vont chez un petit, Lyon c'est Lyon, et c'est bien qu'ils y aillent comme ça. Et puis au final, ils ont gagné. Donc tant mieux, Paris gagnant. Mais c'est ce qui a fait aussi que le match ait été à ce point-là ouvert, parce qu'il y avait des espaces. À un moment, ça peut faire 2-2, comme ça peut faire 3-1, parce que Fekir en rate une vraiment belle.
Il y a la balle
belle.
De 3-1 avant le 2-1, ouais.
Exactement. Ouais, ouais. Donc, avant le 2-1, non, dans ces cas-là, il y a balle de 3-0, alors.
Ah oui, la balle de 3-0, pardon. La balle de 3-0 avant le 2-1.
Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas été loin du 3-0. Non, et pourtant, c'était un moment où Caen était dans des bonnes séquences de jeu, où mettait beaucoup de rythme, avait des occasions. Ils ont touché poteau deux fois, je crois. Bel arrêt de Lopez sur frappe de Rodelin qui
ça
était.
Ça a été équilibré,
qui était
dans le match.
C'était plutôt
même
équilibré.
Dans le jeu, même dans le jeu.
Mais Caen, c'est pas mal, cette année.
Et
encore.
Si je dois dire qu'il y a une différence, finalement, elle se fait sur quoi? Elle se fait sur le nombre de joueurs de classe que tu as.
Les individualités.
Le nombre de mecs qui vont être capables de faire la bonne passe ou pas la bonne passe, parce que quand le nombre de fois où ils partent en contre et l'autre lui met balle un peu décalée dans le dos où il peut pas la prendre, ou balle un peu trop devant, un peu trop ci, un peu trop ça, un mauvais contrôle, un mauvais truc, ça se joue aussi là-dessus. Et je répète, moi, ce match, vraiment, moi, je l'ai trouvé assez emballant, quoi.
On va écouter la réaction d'Anthony Lopez à l'issue de cette rencontre, le gardien de l'Olympique Lyonnais, voilà, qui retient la manière avec laquelle l'OL a arraché sa victoire.
Partie des matchs de championnat, il y a des matchs où on va sûrement s'imposer un peu plus facilement, et il y a des matchs où il va falloir aller à la guerre jusqu'à la dernière seconde. C'est ce qui a été fait cet après-midi. Ouais. L'essentiel, c'était de vraiment prendre les trois points, de se racheter de notre non-premier mi-temps contre Lille à domicile et ouais, chercher les trois points aujourd'hui. Ouais, c'était un match très dur. Après, ouais, on sait que dans les périodes comme ça, les terrains commencent à être de plus en plus compliqués, et puis on a de plus en plus de mal à poser notre jeu, donc ouais, il faut passer par ce genre de rencontre pour ouais, continuer à être forts tous ensemble et à l'arrivée prendre les trois points, parce que c'est ce qui est l'essentiel à la fin.
Alors Anthony Lopez, qui était il y a quelques jours
fidèle à l'after, l'essentiel c'est les trois points.
Voilà, exactement, qui était il y a quelques jours le gardien de l'histoire de l'OL, avoir la plus longue série d'invincibilité, vous le savez, et puis il y a eu alors cette fameuse débâcle face à Lille qui était un petit peu inattendue. Ça les a peut-être un peu relancés aussi, les Lyonnais, non? Peut-être qu'ils sont
c'est la petite piqûre de rappel.
Je sais pas si c'est ça
c'est la petite piqûre de rappel que...
Je vois pas. Aujourd'hui, le match, ils ont fait leur match. C'est pas parce que, tu vois, si jamais Caen égalise en fin de match, qu'est-ce qu'on dit? Ils continuent à être malades. Non, je trouve que Lyon continue de jouer un peu toujours de la même façon. Après, ils ont le droit de se déchirer sur le match de Lille.
Oui, c'est pas catastrophique.
Très probablement, ils ont eu un peu peut-être la même réaction qu'on a tous eu avant ce match-là, de se dire à Lille, ils sont tellement à la cave qu'on va les dominer facilement. Et puis le match au milieu de semaine, traditionnellement, de championnat, il est toujours un peu délicat à gérer. Lille, ils ont max de réussite sur ce match-là. Voilà, je suis pas sûr que Lille c'était un accident de foot plus un accident mental, quoi, dans la tête. Et là, sur ce match-là, ils font ce qu'ils savent faire, les Lyonnais.
Lyon est donc à égalité de points.
Et si
avec
même Cornet se met à mettre des buts, alors là. Oui.
Alors Lyon est à égalité de points avec Monaco et Marseille. Est-ce que Lyon est le plus beau de la plus belle de ces trois équipes?
Le plus quoi? La plus belle.
Ouais.
Lyon.
Ouais. Le plus beau des deuxièmes, j'allais dire.
En tout cas, enfin pour moi en ce moment, c'est ceux qui jouent le mieux.
Tu crois plus à Monaco, toi? Lyon, Monaco et Marseille sont à égalité de points derrière le Paris Saint-Germain. Pour vous, qui est le plus beau des deux?
Pour moi, celui qui produit en ce moment le plus beau football, celui que j'ai le plus de plaisir à regarder, c'est Lyon.
Ça c'est vrai, je suis d'accord. Maintenant, vraiment, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises en retournement dans cette saison.
Avec Monaco.
Je pense que Monaco
vit
un mauvais moment. Mais la trêve passée, parce que là je pense qu'ils vont se traîner jusqu'à la trêve. D'ailleurs leur victoire là, c'était vraiment pas terrible.
Ah oui.
Mais deuxième partie de saison avec un match par semaine, je pense que Jardim va resserrer les boulons. Il y a pas mal de joueurs qui ont quand même pas intérêt à ce que ça s'enlise et à ce que le club n'aille pas en Ligue des Champions.
Puis il y en a d'autres qui ont intérêt de se montrer sous un autre
Exactement,
jour.
Exactement, parce qu'il y en a qui veulent, s'ils veulent se barrer, il va falloir qu'ils se montrent. Et je pense que la deuxième partie de saison, Monaco, contrairement à ces dernières semaines, on a été très pessimiste sur eux. Je pense qu'il faut vraiment pas les enterrer. Et la deuxième partie de saison peut leur sourire. Après, il y a Lyon qui effectivement a beaucoup de qualité. Et moi, en retrait, je continue de mettre malgré tout l'OM. Mais juste parce que je pense qu'il y a moins de joueurs de qualité, tout simplement. Il y a moins de joueurs de qualité à l'OM qu'à Lyon et Monaco.
Oui, et puis t'as pas
autant de mecs pour te faire la différence.
et t'as pas cette faculté, cette qualité de pouvoir jouer avec le ballon. Et à un moment donné, si tu veux aller gagner des points en deuxième partie de saison chez des équipes plus faibles, il faut jouer.
Marseille a pris beaucoup de points ces dernières semaines à la niaque, quoi, à la volonté, ce qui est très bien, c'est très très positif. Mais à un moment, sur toute une saison, il va quand même falloir qu'il y ait des mecs un peu de qualité. Le gars qui te claque 15 buts, on en est loin à Marseille.
Ces points à la niaque, t'auras plus de mal à les gagner dans les 10 derniers matchs quand il y en a aussi qui vont avoir la niaque pour se sauver.
Parce que 15, Falcao, il y est déjà. Mariano, il y est déjà. Bon, virtuellement, il en est à 2, donc il y sera. Fekir, il y sera très probablement. Il y en a un paquet, quoi, des mecs de qualité. Marseille, je suis désolé, ils les ont pas, ces gens-là.
Bah, voyons ce qu'on pense Dorian, supporter de l'Olympique Lyonnais. Si j'y arrive.
Bonsoir.
Ouais, t'es là, Dorian.
Ça va, Dorian? Toujours. Ça va.
Bon, alors, est-ce que pour toi, Lyon est le plus beau des deuxièmes?
Oui, je trouve que Monaco est un petit peu inconstant dans le jeu et par sa qualité, on va dire, intrinsèque. Et je pense qu'ils ont mal géré leur mercato. Et Marseille, honnêtement, sans être méchant avec eux, ils ont une chatte qui est vraiment monstrueuse, on va dire. Ils ont beaucoup de faits de jeu qui leur est favorable, et ils ont un banc de touche qui est quand même relativement très pauvre. Et à un moment donné, ça tient un moment, mais ça tiendra jamais toute la saison.
D'accord avec Dorian, Pierre?
Oui, j'aurais mis chance à la place de chat, mais sinon je suis d'accord avec Dorian.
Il adore les animaux, Dorian, il a le droit.
Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord, c'est ce qu'on disait juste avant, effectivement. Monaco pour l'instant, effectivement, irrégulier, inconstant. Attention à la seconde partie de saison. Marseille n'a pas la même qualité que ses individuels et même collectifs que ces deux équipes-là. Et Lyon, pour l'instant, pour moi, est le meilleur deuxième, c'est ce qu'on disait avant, ouais, complètement d'accord.
Et t'en as pensé quoi du match d'aujourd'hui face à Caen, du coup, Dorian?
Bon dans la qualité. Après, je pense qu'on est des temps faibles qu'on a moyennement géré, on va dire. On a moyennement géré nos temps faibles, et je pense que des fois, comme contre Lille, on se voit des fois un petit peu trop beau avant d'avoir ficelé le match, on va dire. On ne tue pas le match, et sur l'action de Fekir, par exemple, où il rate la manquable, et derrière, on se fait très très peur, quoi. Ouais. Il y a une petite suffisance. On sait qu'on est très bon individuellement, même collectivement maintenant, que le rodage est fait avec les nouvelles recrues, mais on se fait beaucoup peur, et faut régler le problème de cette suffisance.
Je sais pas si c'est de la suffisance ou si c'est un petit manque d'expérience plutôt. Tu vois?
Peut-être un peu des deux, mais
ouais, je pense que c'est plus ça.
Volontaire ou involontaire après. Hein. Ouais. Mais après, pour revenir sur la question du meilleur deuxième, je pense que sur les trois concurrents, Lyon a l'équipe la plus belle, on va dire, le 11 de base.
Le plus gros potentiel.
Et même sur le banc de touche, on a bien recruté, on a quand même quelques cartouches offensives ou même défensives que n'a pas Marseille que n'a plus Monaco.
Merci Dorian de nous avoir appelé. Bonne soirée à toi, Dorian.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Tiens, on n'en a pas parlé. Vous savez qu'il y a aussi un fait de jeu, d'ailleurs, c'était pas forcément dans le jeu, qui a fait énormément parler et réagir aussi sur les réseaux sociaux, c'est Marsal avec l'arbitre.
Oui.
Voilà, ça a fait énormément réagir aussi, voilà. Vous avez rien à dire, visiblement. Vous,
non, ça a suffisamment réagi.
Non, mais ce genre de geste, c'est. Je sais pas d'ailleurs, à mon avis, la commission là-dessus.
Il y a moyen qu'ils prennent derrière.
Un peu, ouais, je pense.
Dans quelques instants, on va revenir sur l'une des autres affiches de ce dimanche, à savoir le match nul entre Saint-Etienne et Nantes. Supporter des Verts, supporter des Canaries, on vous attend au 32-16. A tout de suite avec Daniel Riolo et Pierre Dupont.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo toujours et Pierre Ducrot, et vous également au 32-16. Ce soir, Montpellier-Marseille, on fait match nul, un but partout. Cet après-midi, Lyon a battu Caen 2-1. Et puis, il y a eu, en ouverture de ce dimanche, un match nul entre Saint-Etienne et Caen. Un partout. Pajot qui a marqué le premier but du match. Quel beau but, hein, d'ailleurs, de Pajot, cette frappe.
Oui.
Là.
Ah ouais,
magnifique. Terrain de Saint-Etienne.
Un Pajot, il t'en met 10 en tribune, et bon, quand ça rentre, c'est beau.
C'est quoi, s'il en met 10 pour en mettre une comme ça tous les 10?
Voilà. Et Salah a égalisé pour Salah encore, hein.
Il est là, mon chouchou, pas bon. Il a mis un but du nez, de la joue, de.
Non, là, ouais, la tête, quoi, non?
Ouais.
Ouais, regarde ça.
La frappe de Pajot, voilà. Sur BFM Sport,
ouais, si pour BFM Sport. Et il est content.
Et il est content,
j'ai un sablé.
Ah, jusque-là, ça allait.
Et là, donc, attends, dégagement.
Et là, on revient.
Et puis là, et franchement, ils ne sont pas vers rien.
Il tape dans la tronche. Tu vois que c'est dit de la joue. C'est de la joue.
C'est chelou son but.
C'est de la joue. C'est de la joue.
Vous voulez commencer par quoi? Alors, par Nantes ou par Saint-Etienne? Parce que Saint-Etienne, d'accord, fait match nul. Saint-Etienne, ça fait 8 matchs d'affilée sans victoire, quand même.
Ce qui est une sorte de record, je crois, statistique, pour ceux que ça intéresse. Non, moi, je veux parler de Nantes, parce que Saint-Etienne soit à la ramasse et à la cave, c'est un fait. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et moi, je sais pas si des gens ne regarde pas bien ce que fait Nantes ou n'ont pas envie de regarder ou ne sont pas impressionnés ou pensent que ce qui est fait là-bas n'est pas digne d'intérêt parce que c'est pas flamboyant. Ils devraient regarder d'un petit peu plus près quand même. Parce que cette équipe, intrinsèquement, les joueurs qu'elle a, c'est quand même pas des cadors, quoi. Il y a vraiment pas des cracks dans cette équipe techniquement et vraiment c'est pas leur faire injure hein, c'est vraiment pas ça le but. Mais tirer à ce point, parce que c'est ça aussi être un très bon entraîneur, c'est tirer le maximum du potentiel des mecs. Et tirer le maximum comme le fait Ranieri d'abord par une vraie organisation, par l'audace qu'il arrive à transmettre à ses joueurs qui osent hein. Sur la première période, c'est équilibré. Si Saint-Etienne mène je sais pas si on peut dire s'ils mènent 2-0, il y a rien à dire, mais enfin bon, ils ont les occasions. En tout cas, ils sont un peu au-dessus de Nantes sur la première période. Mais sur la deuxième, très franchement, Nantes peut le gagner le match et à un partout. Et alors là, c'est là que je veux en venir. C'est là que je veux en venir. Si ceux qui disent que Ranieri gagne petit ou que Nantes hein, non. Une fois qu'il y a un partout, Nantes continue d'attaquer. Alors ouais, ok, Saint-Etienne n'en touche plus une, ils sont pas bons. Mais ils pourraient très bien se contenter du 1-1, parce que 1-1 à l'extérieur, quand t'es Nantes, tu peux très bien t'en contenter. Non, ils ont continué, et franchement, ils passent pas loin de revenir avec la victoire. Ils ont une énorme occasion sur la fin. Ils en ont plusieurs, et Ruffier est encore une fois déterminant. Et franchement, je crois pas que c'est insulter les Stéphanois que de dire que Nantes peut vraiment gagner et mérite la victoire.
C'est une réalité.
Aujourd'hui, c'est très bien organisé. Il y a un Salah qui fait un pressing de ouf et on connaît ses défauts, ses qualités. On sait que c'est pas un crack. Et puis, pour moi, il y a quoi? C'est Rongier Dubois, les joueurs qui sont vraiment dans cet effectif.
Alors, Rongier, il a vraiment un truc. Hein.
Tu sais quoi?
Je vais
de la bonne volonté, de l'abnégation, ouais, du don de soi. Moi, j'adore cette équipe.
Je vais te poser une question. Est-ce que à Saint-Etienne aujourd'hui, t'as des joueurs qui te paraissent intrinsèquement même supérieurs à ceux de Nantes? Honnêtement. Des joueurs qui ont fait des choses bien avant, oui, mais depuis le début de saison.
Non,
tu vois ce que je veux dire?
Depuis le début de saison, non.
Et j'en reviens à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, t'as un club où tout le monde est au service du collectif parce que t'as un patron qui est à la tête de ça, c'est Ranieri, et que les mecs ils suivent, ils écoutent, ils sont tous sur le.
T'as ce qu'on appelle un vrai coach.
Voilà, un vrai coach et un club où tu laisses le coach coacher et être le patron. Et puis t'as un autre club où depuis maintenant des années, c'est compliqué d'être coach là-bas, c'est compliqué d'imposer tes idées, tout le monde ne va pas dans le même sens, et finalement avec des équipes à peu près similaires, tu obtiens un résultat diamétralement opposé. C'est ce qui se passe en ce moment dans les trajectoires de Saint-Etienne et Nantes.
On a beaucoup parlé de la patte Ranieri quand il est arrivé, Claude Ranieri, du côté du FC Nantes. Est-ce que vous la ressentez? Est-ce
qu'il faut changer?
En fait, on sent que cette équipe, elle est tenue, quoi.
Mais parce que
les mecs sont là, ils donnent le max.
Mais parce que Ranieri a une vraie crédibilité et que moi je suis persuadé, pour l'avoir vécu de l'intérieur, quand ce mec-là arrive dans le vestiaire, tout le monde l'écoute, quoi. Et il y en a pas un qui discute. Et tout le monde fait ce que Ranieri demande. Et à un moment donné, c'est comme ça qu'un collectif marche bien et que, comme par hasard dans ce collectif, t'as quelques garçons effectivement. Et là, Daniel, à la fin de l'année, on fera peut-être un bilan, mais des joueurs qui étaient inconnus ou que d'autres devaient trouver moyen, et comme par hasard, t'as certains joueurs qui vont ressortir de ce collectif et qui vont s'affirmer. Moi, j'en suis persuadé, à la fin de l'année, on verra 2-3 joueurs de Nantes qui partiront ailleurs et qui seront targués d'être devenus des bons joueurs de Ligue 1.
Alors, la question maintenant, c'est jusqu'où Nantes peut-il aller? On le répète, Nantes est cinquième, ils sont à 5 points justement, du fameux trio qui est à égalité de points derrière le PSG, Lyon, Monaco et Marseille. Vous voyez Nantes capable d'accrocher une place européenne ou pas?
Alors, moi, je vais te répondre, ils peuvent aller très loin si tous ces garçons-là reste dans le même état d'esprit, c'est-à-dire à l'écoute d'une autorité et d'un patron.
Après, c'est
Ranieri.
Compliqué d'aller gratter les quatre de devant. Il faudrait qu'il y en ait un qui dérape.
T'as dit quoi? Une place européenne, c'est ça?
Oui.
À 5, c'est bon, 5.
Ah ouais, 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 là où ils sont actuellement, ils sont bien.
Bien sûr, bien sûr.
Ils n'ont plus la Coupe de la Ligue, hein. C'est mort.
Bien sûr, ils sont, bien sûr. Pour moi, c'est l'équipe
intercalée. Ouais, s'ils continuent à être vraiment à l'écoute et à progresser comme ça collectivement, individuellement, ils peuvent y aller.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais le prochain match de Nantes, c'est face à Nice. C'est pas un bon petit test, ça, quand même. Même si Nice, ils sont pas au top, mais justement, c'est l'équipe européenne.
Ils en ont passé beaucoup. Parce que la victoire contre Monaco cette semaine, elle était comment? Et franchement, ils ont étouffé les Monégasques.
Ouais, ils ont foiré aussi, hein. Contre Rennes, ils ont perdu.
Là, honnêtement, contre Saint-Étienne, moi, je pense qu'ils ont perdu
tous les matchs. Sinon,
ouais, contre Dijon, bah
sinon,
ouais,
ils visent le top 3 s'ils gagnent les matchs.
Bah voilà.
Bah voilà.
Ah voilà. Ah voilà. Bah écoutez, merci. Voilà. Ah oui, attendez, avant qu'on se quitte quand même, parce que ça c'est quand même c'est l'image du jour, ça. Peut-être même du week-end d'ailleurs. Ah. Vous savez qu'il y avait la première de Gattuso sur le banc de Milan.
Ah, je croyais que c'était. La pirouette de
Sion sur son but. Vous savez que Benevento, l'adversaire de Milan, ils avaient perdu tous leurs matchs depuis le début de saison.
Vous savez que
Simone Rovera, qui était là cette semaine, il avait dit, bah de toute façon, je le sens, Gennaro Gattuso, avec la chance qu'il a, tu vas voir qu'ils vont marquer les premiers.
Il l'avait dit dans l'after lundi soir.
Oui, c'est ce que je te dis. Il a dit cette semaine. Et qui marque le but égalisateur dans le temps additionnel? Benevento, gardien.
C'est fou, et un beau but en plus.
Il s'appelle Pignoli, là, je sais pas quoi, non?
Une Brignoli. Voilà. Bah, la même tête que Camara, sauf qu'il donne n'est pas en jeu chez Benevento.
C'est dingue quand même. Alors, Milan, ils sont à la rue, hein, complètement.
Écoute, t'as des joueurs en jeu aussi, là.
Ils sont à 15 points de la tête, je crois.
T'as deux joueurs en jeu aussi.
La tête du gardien.
Belle, hein,
c'est juste dingue.
Non, elle est magnifique.
Voilà, on voulait se quitter avec cette belle image.
Par contre, pour Milan, quelle poisse, quoi.
Ouais, c'est dingue. Merci Pierre Ducrot.
Merci Nicolas Villas.
Merci Daniel Riolo.
Merci les amis.
Qui enchaîne avec le RMC Poker Show. Donc vous appelez pas, vous restez avec nous. Merci.
Est-ce que t'as invité le mec qui a fait le casse au Bellagio?
Non.
Enfin, tu le retrouves, lui. Là, faut appeler Dominique Rizet là pour le retrouver, lui, par contre. Ouais. Voilà, branchez-vous sur BFM TV.
La police à Vegas a déjà dû le choper.
Ouais, je pense. Ouais. Il paraît qu'il a disparu depuis
le mec, il va au Bellagio et prend 35 000.
Merci à toutes les équipes techniques. Ciao, ciao. Et à demain.
Durant une heure, RMC met 4 sur table, c'est le RMC Poker Show.